Europe Soir Weekend,
Pierre de Villeneau.
Titre du trio viré qui tomba dans l'oreille de nombreux amateurs de jazz, moi compris, c'était il y a 10 ans et on l'entend encore ce titre sur certaines stations de jazz. Jean-Philippe Viré à la contrebasse, Fabrice Moreau à la batterie et Édouard Ferlet au piano. Bonsoir Édouard Ferlet.
Bonsoir Pierre.
Du temps s'est écoulé depuis cette mélodie romantique, jolie, qui reste dans l'oreille. Vous n'avez cessé d'évoluer et de découvrir, puis j'allais dire transformer à la fois votre musique et votre instrument. Pourquoi ne pas rester comme d'autres grands pianistes de jazz, comme Brad Meldow, comme Bill Evans, à rester à jouer du piano? Pourquoi est-ce que vous avez voulu tout transformer?
Ce qui me plaît, moi, c'est en tant qu'artiste, c'est de m'amuser, de jouer, comme son nom l'indique. Je suis un joueur et je veux à chaque fois m'amuser. Et donc, c'est le renouvellement qui m'amuse. C'est l'inconnu, c'est l'inattendu. Donc, à chaque fois, j'essaye de, en gardant évidemment mes bases, trouver des choses qui vont m'exciter, qui vont susciter mon intérêt. Voilà, le piano, il y a 88 touches, mais à un moment donné, il faut essayer de trouver d'autres choses pour s'amuser. Voilà, donc c'est pour ça que à chaque fois, j'essaie de trouver des solutions pour inventer. Voilà.
Il y a déjà un peu plus de 10 ans, Peine perdue, c'était quand?
C'était en 2008.
2008,
ouais,
hein,
2008.
Quelque chose comme ça. Je me souviens d'assister à un concert de vous au New Morning, il me semble, ou au Duc des Lombards. Vous mettiez à un moment donné, vous jouiez avec. Il y a une note que vous preniez avec votre nez,
puisque vous avez oui, un nez un peu. Oui, à l'époque, je faisais ça.
Vous
c'est
avez
vrai.
Ça. Ensuite, oui. vous avez un autre concert. Vous pinciez les cordes de votre piano. Ensuite, il y a eu Think Back, qui est absolument hallucinant, puisque vous avez détricoté une partition de Bach. Vous avez
ouais.
même joué un prélude à l'envers.
Ouais, ouais.
Et là, maintenant, avec Pianoid, c'est le dernier album. On est entre le piano, le pianiste, la machine, le robot, la musique.
Oui, c'est ça. C'est le jeu avec le robot. En fait, ce qui est amusant, c'est que le robot a été inventé pour remplacer le geste de l'homme, pour imiter le geste de l'homme, pour aller plus vite, pour évidemment faire des économies.
C'est Charlie Chaplin dans les temps modernes.
Voilà, c'est ça. Mais en fait, maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est de s'inspirer du geste du robot. Pourquoi? Parce que le geste du robot, en fait, est inhumain et donc inimaginable. Et donc ça peut permettre à des artistes d'aller encore plus loin dans l'imagination. Nous, on a une imagination qui est quelque part restreinte. On s'imagine des choses qui sont faisables. Or, le robot fait des choses qui sont infaisables, inhumaines. Et je me suis amusé avec ce système de piano automatique, ce piano robot, à lui faire jouer des choses qui ne sont pas humaines. Mais c'est pas spécialement jouer vite et fort. Ça peut être, par exemple, jouer doucement et très faible aussi, par exemple. Mais il y a plein de modes de jeu qui sont inhumains et tout d'un coup, ça devient un autre instrument. C'est une façon de jouer avec la robotique et qui va vraiment inspirer poétique, le robot poétique.
Alors, on va voir ce que ça donne. On écoute le prélude en la mineure. Édouard, qu'est-ce qui se passe sur ce morceau? Il y a combien d'instruments? Et puis alors après, ça monte. On n'a malheureusement pas le temps d'écouter tout en entier.
En fait, il y a le piano sur lequel je joue, j'appelle ça le
piano. Instruments. Hein.
Ouais, 4 instruments. Il y a le pianomètre. Le deuxième, ça va être un contrôleur qui va modifier ce que je vais jouer sur ce pianomètre, qui va l'envoyer sur un deuxième piano, qui va lui jouer en métamorphose de ce que j'ai joué, ce que je lui ai proposé, c'est-à-dire faire des arpégiators, faire des notes répétées. Et en plus de ça, il y a un autre contrôleur qui va lui envoyer des séquences pré-programmées que je vais pouvoir envoyer quand je veux.
Donc, un contrôleur.
Un contrôleur.
Donc, c'est pas le contrôleur du train. Donc,
ça peut être ça. J'aurais
Qu'est-ce
toujours
que vous
voulu.
Appelez un contrôleur? Parce que là, j'ai du mal à vous suivre.
Un contrôleur, c'est un boîtier où il y a des boutons dessus et on assigne les fonctions sur chaque bouton. On leur assigne des fonctions.
D'accord.
C'est-à-dire accélérer le tempo, jouer plus fort, moins fort, jouer à la croche, à la double croche. Donc, tout d'un coup, c'est une autre façon. C'est un autre instrument. Il a fallu que j'apprivoie cet instrument. Ça fait à peu près 7 ans que je travaille sur ce projet. Et donc, ça veut dire que le piano, j'ai le clavier et au-dessus de mon clavier de piano, j'ai un autre clavier qui s'appelle donc un contrôleur avec des boutons qui eux sont assignés à des fonctionnalités. Voilà, donc, et c'est vrai que
Vous utilisez aussi un piano qui marche tout seul.
Voilà, c'est un piano en fait qui existe depuis très longtemps, début du XXe siècle, hein, qui est venu très peu de temps après le vrai piano moderne. Et vous savez, c'est les pianos qu'il y a dans les saloons qui jouent tout seul, on met des rouleaux. D'ailleurs, il y a des grands pianistes qui ont enregistré, qui ont matricé en fait les rouleaux. Et c'est très touchant d'ailleurs d'entendre des enregistrements de Fauré, par exemple, qui a vraiment enregistré le seul moyen. Il faut savoir qu'à cette époque-là, le seul moyen d'écouter de la musique, c'était d'avoir ces pianos-là dans son salon, d'avoir des pianos automatiques.
Oui, parce qu'il n'y avait pas encore
Le phonogramme
des systèmes de phonogramme.
Et quand le phonogramme est arrivé, ces pianos-là sont un peu partis. Mais il y avait 70% de la vente des pianos étaient des pianos automatiques.
Aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'il y a des pianos qui ressemblent à ces pianos, sauf qu'il n'y a plus des rouleaux, mais c'est des pianos.
Par exemple,
des disques clavires de Yamaha, par exemple, qui permettent de jouer un morceau et ensuite de rappuyer un bouton et le piano joue tout seul, il enfonce d'ailleurs les touches.
Exactement, on peut même récupérer les enregistrements de grands pianistes et les transformer, les faire jouer sur ce piano-là.
Donc vous jouez sur votre pianomètre et à côté il y a ce piano qui joue tout seul.
Voilà, qui joue tout seul, c'est un peu mon alter ego, mon alter robot qui va jouer. J'ai aussi des fonctionnalités qui amènent un peu de random, de désordre. C'est-à-dire que c'est pas non plus toujours très précis. Il va me proposer des choses et je vais jouer avec lui. En fait, je vais jouer avec moi, en fait, moi transformé. C'est un petit peu. Donc, je me suis attaqué à Jean-Sébastien Bach sur les disques en solo précédemment, et là, je m'attaque maintenant à moi. C'est le summum de l'égocentrisme, n'est-ce pas?
Mais oui, je vois, mais je vous reconnais bien là. La générosité incarnée, Édouard Firlet. On écoute un autre titre. Comme ça, ça a l'air un peu plus classique, je vais dire.
Le défi pour moi, c'était aussi de ne pas en rajouter. C'est pas parce qu'on a un deuxième piano qu'il faut mettre deux fois plus de notes. C'est presque le contraire. C'est arriver justement à avoir de nouvelles sonorités qui fait qu'on ne reconnaît pas le piano. Moi, l'idée aussi, c'est de transformer le son d'un piano en un autre instrument. Et c'est ce que me disent le public, qui me dit souvent ça en fin de concert. J'ai entendu des violons, j'ai entendu des voix, des trompettes, des percussions, bien sûr, parce que je fais des percussions dans le piano, sur les cordes, sur le métal.
J'ai vu que vous mettiez des balles de ping-pong sur les...
Oui, ça aussi, mais je préfère pas trop dire. Vous savez, mon manager me dit de pas dévoiler mes secrets, donc je ne dirai rien à la radio.
Tant pis pour lui, j'ai vu la vidéo, vous mettez des balles de ping-pong sur les cordes.
Je fais plein d'autres choses que je ne dirai pas le secret. Mais c'est vrai, voilà, j'essaie de transformer le son du piano. On a tous en tête le son d'un piano, mais en fait, c'est une caisse de résonance incroyable. Avec toutes ces cordes, on peut gratter les cordes, on peut frapper les cordes, mais avec d'autres choses que les marteaux du piano. Il y a aussi tout le cadre en métal. Enfin, il y a plein de choses à faire. On peut aussi jouer sur le bruit des touches sur le piano avec ses ongles, tout simplement. Enfin, bon,
voilà. Et puis, il y a quand même, le summum, c'est ce qui sort du cerveau. C'est l'art de la composition, ce titre qui s'appelle Vendry.
Ouais,
ça,
ouais.
Ça veut dire quoi?
Ne vous dirai pas non plus.
Non, mais c'est une... Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est votre imagination, c'est peut-être un paysage, c'est peut-être une femme que vous avez connue, peu importe. Mais il y a quand même... Et ce que je veux dire, c'est que des mélodies de jazz, on en a connu, et puis des mélodies de variété, on en a connu. On arrive quand même encore aujourd'hui, en 2022, à faire une création originale.
En fait, pour moi, le secret aussi, c'est de ne pas écouter trop les collègues. Justement, on parlait de Brad Meldo. Il m'influence trop, j'essaie de ne pas trop écouter ces musiciens. Je les ai écoutés quand j'étais étudiant, Cat Jarrett, Chick Corea, et bien encore Brad Meldo. Mais aujourd'hui, je me dis que j'ai encore plein de choses à donner, et du coup, je m'écoute en silence, justement, que ce que j'ai. Plus je vais avoir de silence autour de moi, plus je vais pouvoir faire de la musique. C'est plutôt le contraire de ce qu'on peut imaginer. Il y a des musiciens qui peut-être préfèrent écouter beaucoup de musique pour s'en inspirer. Moi, je pense qu'on en a déjà beaucoup dans la tête et que c'est avec le silence qu'on peut réussir à créer des nouvelles mélodies.
On a écouté tout à l'heure le trio Viret, dans lequel vous avez d'une certaine manière commencé. En tout cas, ça vous a rendu célèbre. Il y a certaines fois où vous quittez votre égocentrisme que vous avez. dont on a parlé.
En rigolant, bien sûr.
Bien sûr, en rigolant. Et vous rejoignez ce trio.
Ce qui est intéressant dans ce trio, c'est que c'est justement le contrebassiste qui est le leader du trio, alors qu'en général, c'est les pianistes qui sont les plus importants.
Hein. Donc, il y a une guerre des égos.
Justement pas, et on s'est vraiment amusé à changer les rôles. Et justement, que la contrebasse joue autre chose que le walking bass, que tout d'un coup prenne l'archet, joue des mélodies, des accords, et que le piano joue autre chose que des solos et des accords à la main gauche. Donc voilà, c'est changer les rôles une fois de plus du trio.
Guillaume Zorga, notre réalisateur, a eu la bonne idée de remettre Peine perdue. Est-ce que ce tube, même quand vous jouez pianoïd, quand vous jouez singback, est-ce qu'on vous le réclame ?
Oui, on me réclame certains morceaux que j'ai enregistrés précédemment, oui. Donc ça m'arrive de les jouer aussi pour faire plaisir au public, bien sûr.
Ça vous fait plaisir aussi
à vous ?
Ça
fait plaisir aussi, ça flatte mon égo, ça donne des cacahuètes à mon égo, bien sûr.
Décidément, c'est une interview complètement sur l'égo. Il s'appelle Édouard Ferlet, en tournée en ce moment.
Oui, alors venez m'écouter la semaine prochaine, donc jeudi 30 juin, ça serait au 360 Music Factory, c'est un club très chouette à la Goutte d'Or.
Et
donc là, c'est à Paris.
Et ça d'autres dates en France également ?
Alors après, il y a Marciac, justement, avec le trio Véré, c'est le 6 août, il me semble. Et après, le 7 avec Pianoïd, mais vous pouvez voir les dates sur mon site ferlet.com. Et voilà, je vous invite avec plaisir.
Merci beaucoup, Édouard Ferlet,
merci
d'avoir
Pierre.
Fait un tour par Europe 1. Et effectivement, il faut absolument écouter ce dernier disque Pianoïd. Place à Panorama dans un petit instant.
Europe Soir Weekend.
Pierre de Villeneuve.
Et cette question, jusqu'à 20h, la France fait-elle encore rêver ? Le Louvre, la Joconde, la Tour Eiffel, la gastronomie, le savoir-vivre, le savoir-faire, le luxe, les parfums, la maroquinerie, la mode, la musique, on vient de le voir avec Édouard Ferlet, les start-up, les licornes, bien sûr. Mais que penser du nouveau clivage politique, les violences au Stade de France, les gilets jaunes, le classement scolaire ? La France fait-elle encore rêver ? Et si oui, comment redonner du souffle à la France ? On en parle avec Henri Guénaud, bonsoir.
Bonsoir.
Ancien député, ex-conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, vous avez publié récemment De Gaulle, le nom de tout ce qui nous manque. Bonsoir à Anne Miller, qui est la nouvelle administratrice générale du domaine de Chantilly. Évidemment, ce beau château et ce parc de Chantilly que vous administrez désormais après être passé par la French Tech, parce qu'il va en être question également. Et bonsoir à Fabrice Dalméda.
Bonsoir Pierre.
Historien, effectivement, qui nous sera d'une grande aide dans ce débat sur cette France qui fait encore rêver. Qu'est-ce que, Henri Guénaud, c'est un paradoxe depuis toujours, cette France qui, d'un côté, bon, on peut parler de 1789, on peut parler des guerres de religion, on peut parler de la Saint-Barthélemy, on peut parler de plein de choses. Fabrice pourra parler aussi. Est-ce que c'est un paradoxe d'avoir le chaud et le froid dans cette France qu'on aime tant ?
Bon, d'abord, dans tous les pays, on a du chaud et du froid. Vous croyez que l'histoire de l'Italie a été une histoire tranquille ?
Attendez, Emmanuel Macron sortait de ce corps. Encore récemment, encore cette semaine, Emmanuel Macron a dit « Regardez l'Italie, regardez, hein, voilà. »
Non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, toutes les histoires de tous nos pays européens, même occidentaux, sont des histoires brutales, violentes, sanglantes. Et en même temps, ces pays ont produit, ces peuples ont produit des œuvres d'art extraordinaires, un art de vivre fabuleux. Bon, donc voilà, de ce point de vue-là, il n'y a pas de nouveauté. Il y a un changement par rapport aux dernières décennies, notamment.
Il y avait une certaine gaieté jusqu'à il y a peu de temps.
Aux décennies de l'après-guerre. C'est vrai qu'il y a, mais c'est vrai dans tous les pays occidentaux, une dégradation de l'état de la société, une dégradation à la fois du climat social, du climat psychologique, qui ne donne pas une image très attirante aux yeux du monde, surtout que les Occidentaux ont tendance à continuer à faire la leçon au monde entier. C'est-à-dire, prenez notre civilisation, prenez notre culture, prenez exemple sur nous. Et puis, le monde entier voit les images d'une société, que ce soit l'assaut du Capitole, le pillage de l'Arc de Triomphe, le Stade de France, les émeutes, mais pas seulement en France, il y a des émeutes aussi dans les pays nordiques. Donc, voilà, c'est vrai que... Il y a une image très, très, très contrastée après la pandémie en plus. Voilà, donc
c'est intéressant. Est-ce que Anne Miller, vous qui maintenant effectivement dirigez, administrez le domaine de Chantilly, mais vous avez vécu aux États-Unis, c'est un pays que vous connaissez parfaitement. Est-ce que vous êtes d'accord avec Henri Guénaud qui dit qu'effectivement les Occidentaux je veux dire, imprègnent les autres pays dans un regardez comment il faut faire
Là-dessus, je trouve qu'il y a aussi une grande
culpabilité aussi qui se développe en Occident. Moi, ce que j'ai plutôt observé aux États-Unis, c'est le développement du sentiment de la white fragility, du fait que la culpabilité de l'homme blanc et si vous voulez, les Américains qui transposent leur propre culpabilité d'avoir asservi pendant plus de deux siècles des populations noires qu'ils ont fait venir en chaîne dans les cales des bateaux. Et du coup, ils sont en train de développer, au contraire, cette espèce de culpabilité en se flagellant. Donc, je pense qu'il y a en fait une dualité. C'est-à-dire que d'un côté, en effet, il y a l'idée que on est la civilisation des lumières, des libertés. Mais d'un autre côté, on développe cette culpabilité et on a tendance aussi à se flageller et parfois à se reprocher des choses qu'on n'ose pas justement reprocher aux autres peuples parce que on se dit on a une espèce de responsabilité d'être parfait et on n'y arrive pas.
Fabrice Almeida.
Ben, on est quand même un pays attractif. Il y a quelques éléments objectifs, on peut le dire. On reste quand même une des premières destinations touristiques mondiales. On est même encore, je crois, champion cette année. On est un des pays majeurs pour les réunions de congrès. On a même une industrie du Congrès qui fonctionne très bien. Donc là, on a quelques éléments clés. Mais peut-être par rapport au passé lointain qu'on évoquait, par rapport à ce Versailles de Louis XIV, où il y avait un modèle politique attractif, là, c'est clair qu'aujourd'hui...
Ou le domaine du prince de Condé. Hein.
Voilà, exactement. Mais je ne crois plus qu'aujourd'hui, ouais. On soit le phare en matière de modèle politique. Ça, je crois que c'est effectivement. Si on parle de déclin français, je pense que Henri Guénaud sera d'accord avec moi pour dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas si on reprendrait comme on l'a fait au début des années 60 quand on était en Afrique. Je pense notamment à des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, où il y avait un petit peu le modèle de la Ve République pour ces nouvelles démocraties à partir de 1960. Ça leur allait bien d'ailleurs, une Ve République très autoritaire, façon article 16. Mais ils avaient quand même ce.
On l'a jamais utilisé.
Mais il y avait cette idée que la France avait un modèle politique, comme les Lumières. On était pendant le 19e siècle, on est le pays des républicains. Il faut se souvenir qu'en Russie, les révolutionnaires anti-tsaristes chantent la Marseillaise par référence à la France. Donc, ça, je crois qu'aujourd'hui, c'est fini.
C'est fini. Vous êtes d'accord, Henri Guénaud?
Mais surtout, je pense qu'on ne peut pas avoir une société ne peut pas être attractive, pour employer ce mot, je trouve assez laid quand même, mais attirante, disons,
séduisante, fascinante,
si tout n'est pas ne se développe pas en harmonie, c'est-à-dire si vous n'avez pas un modèle politique social dans lequel les gens se sentent bien, si vous pouvez pas avoir un art qui se développe de façon exemplaire,
homogène.
Vous voyez, tout se tient, l'urbanisme, la façon dont on entretient, on modèle les paysages, la littérature. Il y a des sociétés qui se portent bien et à ce moment-là, elles produisent de grandes œuvres, elles produisent de la beauté, elles produisent en même temps de la richesse, elles produisent de l'exemplarité. Et puis, des sociétés qui se portent mal. Je trouve que la nôtre se porte mal, ce qui ne veut pas dire que tout ce que nous avons de bien soit aujourd'hui disqualifié ou discrédité. Mais quand même, quoi. Alors, je suis d'accord qu'il y a la repentance, il y a la culpabilité de l'Occident, mais justement, il y a des fractures terribles, des doutes terribles à l'intérieur de notre société. Et nous les ressentons dans tous les domaines, parce que le nombre de touristes, ça suffit. D'abord, il y a beaucoup de touristes dans le nombre de touristes qui ne font que traverser la France, qui dépensent peu, font que passer. C'est le problème de savoir si les touristes s'arrêtent et s'ils se trouvent bien dans cette société. Moi, je finis, mais je finis dans une ville qui s'appelle Arles, qui est une ville absolument magnifique, avec un héritage très, très ancien, très beau. Depuis toujours, les gens ne s'arrête pas. Enfin, ils passent, ils visitent, puis ils repartent. Donc, si vous voulez, parce que la ville a décliné, alors peut-être qu'elle va maintenant
se moderniser,
renaître, mais cette ville, avec son déclin économique, son déclin social, elle donne pas envie de rester. Voilà.
Fabrice,
c'est intéressant pour réagir juste sur ce que disait Henri Guénaud. Au fond, à un moment donné, on était très fascinant pour le futur que nous proposions. Et je crois que si on va à Arles, malgré tout, les touristes s'y arrêtent, ils y mangent bien.
Non, mais ils dorment très peu, par exemple.
Oui, mais ils viennent voir le festival de la photo. Ça reste quand même une région qui attire du monde et qui fascine pas mal. Mais elle fascine à raison de son passé.
Et je trouve que c'est un petit peu ça le problème actuel de la France, c'est que comme musée, on y reviendra peut-être avec Chantilly, on est fascinant, mais est-ce qu'on est aussi fascinant en matière industrielle ou idéale?
Bon, on a le temps d'en parler, mais d'abord, je voulais quand même donner la parole à Anne-Hilaire, parce qu'effectivement, avec cette photo qui n'est pas très réjouissante d'effectivement des Français qui ne se sentent pas très bien parce qu'ils n'ont pas été très à l'aise. On l'a vu, vous avez vu quand même le taux d'abstention aux dernières législatives, à la dernière présidentielle. On a l'inflation, on a le chômage qui guette, même si les chiffres ont été plutôt bons dernièrement, mais on ne prend pas en compte toutes les catégories. Dans ce contexte-là, Anne-Hilaire, vous arrivez, vous quittez la French Tech que vous avez, dans laquelle vous avez participé pendant quelques années, et vous arrivez dans ce château de Chantilly qui, non pas est à l'abandon, parce que ce n'est pas vrai, parce que le prédécesseur, parce que l'Agacan a donné énormément d'argent pendant des années, mais il y a quand même un énorme chantier, et vous avez quand même le PEPS, vous avez quand même, j'allais dire, cette volonté incroyable de dire c'est la France, c'est Chantilly, et il faut qu'on fasse quelque chose.
Oui, alors je ne peux vraiment pas vous laisser dire que Chantilly a été laissé à l'abandon, parce qu'en effet, comme vous l'avez dit, il y a des investissements considérables.
Je ne l'ai pas dit.
Voilà. Si, vous l'avez dit.
Je suis rattrapé.
Vous êtes rattrapé, c'est vrai. Non, mais je dois redire quand même, parce que c'est vrai qu'on doit beaucoup à l'Agacan, parce qu'il a investi considérablement dans le clos et le couvert. Si vous voyez l'état des grandes écuries aujourd'hui, elles sont absolument somptueuses. Venez voir les grandes écuries. Le château, les petits appartements ont été restaurés. Regardez le hall d'entrée. Enfin, c'est absolument somptueux. Donc, le château n'est pas du tout à l'abandon. Au contraire, d'ailleurs, tout le monde est épaté quand on vient par l'état magnifique du château, premièrement. Voilà. Donc, et puis par ailleurs, mon prédécesseur, Christophe Dardieu, a fait un travail formidable et je tiens à lui rendre hommage. On lui doit notamment la venue d'un festival de jazz qui va arriver d'ici 1er juillet. Alors,
Il y a un modèle économique qu'il faut tenir.
Absolument. Alors, mais pour revenir à ce que vous disiez sur l'attractivité, moi, je crois quand même que les gens votent avec leurs pieds. Alors, même si les Français ou les Américains ne se sentent pas très bien dans leur peau, il faut quand même reconnaître que, généralement, l'immigration, en tout cas, elle vient toujours vers l'Occident. Donc, ça veut dire que le modèle occidental, il est peut-être perfectible, mais c'est peut-être le moins mauvais. C'est comme disait Ésope, c'est comme la démocratie, c'est le moins mauvais système du monde. Voilà, c'est pas le meilleur, mais le moins mauvais. Par ailleurs, c'est vrai que, ayant vécu aux États-Unis, moi je suis quand même émerveillée de voir à quel point les Américains sont en admiration devant notre art de vivre, ça reste le cas, sont aussi en admiration devant notre système de transport public. Alors, certes, ils critiquent le fait qu'il y ait des grèves, mais ils reconnaissent que hors grève, notre système, maillage de transport public, notre fréquence de transport est absolument exceptionnelle. Donc, je crois qu'il ne faut pas trop se flageller.
Mais c'est ce que disait Henri Guénaud, c'est-à-dire qu'ils ne s'arrêtent pas. C'est-à-dire que c'est comme le cas de la ville d'Arles. Ils regardent et puis ils repartent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... On ne se dit pas que tiens, ils vont s'arrêter, même si par exemple, alors je parle sous votre contrôle.
Je crois qu'en nombre de chambres d'hôtel, je crois qu'on reste quand même numéro un mondial.
Oui, est-ce qu'ils s'arrêtent pour investir? C'est ça. Parce qu'il y a effectivement, je crois qu'il y a une société des Amis du Louvre et il y a beaucoup d'Américains qui continuent à aider. Enfin, de là, après, on est en pamoison et on va aider la France à...
Les Américains sont extrêmement actifs pour les Amis du Louvre, pour les Amis de Versailles. Il y a aussi une société qui s'appelle la French Heritage Society qui vient investir dans des monuments historiques français. Ben justement, est-ce que nous, on va investir dans des monuments américains ou italiens c'est extraordinaire. Il n'y a que la France qui suscite un engouement pareil.
Sur
Notre-Dame, ça.
Alors, c'est un
émoi mondial.
Il y a eu une présence.
Il y a eu un élan quand même. International. Il y a eu un élan international.
Absolument,
au moment où il y a eu l'incendie
de
Notre-Dame.
Oui, absolument.
Qui montre il y a eu un élan français aussi.
Qui montre le regard qu'on porte sur nos monuments. Alors,
d'abord, effectivement, les Américains peuvent admirer notre système de transport, peut-être notre système de santé, même s'il est en train de s'effondrer. Mais parce qu'ils partent, eux, de très très loin par rapport à tout. Voilà, donc il faut. Mais
quand on arrive à l'hôpital aux États-Unis, il faut d'abord sortir sa carte bleue. Ça, c'est vrai.
On ne peut qu'être fier de notre patrimoine et de ce qu'il représente, de notre art de vivre, mais il s'abîme beaucoup. C'est-à-dire que, par exemple, nos monuments. Alors, Château de Chantilly, grâce à un mécène très généreux, a survécu. Sinon, je ne sais pas dans quel état il serait, mais je sais dans quel état sont beaucoup de nos monuments, à commencer par nos cathédrales. Et on parlait de Notre-Dame de Paris, mais Notre-Dame de Paris, avant même l'incendie, était dans un état dramatique, comme la plupart de nos cathédrales, parce que on dépensait, d'abord les mécènes ne venaient pas du tout, bon, ils sont venus le jour où l'émotion mondiale ou des gens qui, pour lesquels ça n'avait aucune importance, une cathédrale sont sentis monter les larmes aux yeux en voyant que ce monument qui faisait finalement partie de leur univers familier et de leur imaginaire pouvait disparaître. Bon, mais auparavant, il y avait tout le monde cherchait des mécènes pour Notre-Dame de Paris, on n'en trouvait pas, ni ici, ni ailleurs. Alors, les Américains ont beaucoup fait, mais depuis très longtemps, pour le patrimoine français. Ils ont sauvé Versailles, mais il n'y en avait pas. Et l'État ne mettait pas ce qu'il fallait, la puissance publique. Alors, il faut dire que les finances publiques ne sont pas inépuisables non plus, mais ce qui veut dire qu'on était toujours en retard sur la dégradation du bâtiment. Et vous avez énormément en France de bâtiments qui sont, de monuments extraordinaires qui sont dans cet état, et nos infrastructures aussi. Alors les Américains ont des infrastructures encore plus en déshérence que nous, mais quand même, je veux dire, on a laissé, vous savez, on s'est illusionné pendant très longtemps avec ce qu'on appelle la formation brute de capital, c'est l'investissement brut, en oubliant que ce qui compte, c'est l'investissement net. C'est-à-dire qu'il faut regarder si le patrimoine qui est existant, patrimoine de toutes sortes, encore une fois, que ce soit nos universités, nos routes, nos ponts, nos monuments, nos cathédrales, il est suffisamment entretenu pour ne pas se dégrader au fur et à mesure que nous investissons. C'est-à-dire que parce que nous ne l'entretenons pas assez, nous n'investissons pas assez dans son maintien en état. Voilà. Je trouve qu'en France, non seulement on n'a pas assez investi, non seulement le patrimoine se dégrade, tous les patrimoines se dégradent, c'est pas le seul pays d'Europe, du monde encore une fois, mais en outre, il n'est pas toujours suffisamment mis en valeur. Voilà. Il y a beaucoup de choses à faire qui ne sont pas faites.
Et
on est le premier pays pour les visiteurs, on n'est que le troisième pour les recettes. Oui. Les États-Unis étant
c'est
le premier.
C'est vrai, on dépense moins, et d'autant moins que depuis la crise, il y a moins de Chinois. Or, c'était une des populations qui dépensait pas mal. Fermeture de la parenthèse. Mais pour enchaîner avec ce que vient de dire Henri Guénaud, il me semble que c'est vrai qu'on a un problème de politique publique là-dedans. On a eu des grandes politiques publiques d'attractivité. Louis XIV, il décide de faire venir des artisans, il décide de développer du luxe, il fait des constructions, il modifie Paris, il fait les premiers ministères. Bref, il y a une politique publique pour qu'on soit la ville du monde. Colbert, on est d'accord. Bon. Même chose sous Napoléon. Napoléon qui va piller l'Europe entière pour faire venir les chefs-d'œuvre de tout le monde. Bon, il sera obligé de les rendre à la fin. Mais disons, il y a ce projet. Même chose sous Napoléon III. Même chose sous la Troisième République, qui pourtant était avare de politique publique. On organise des grandes foires internationales, les grandes rencontres mondiales pour que Paris, et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on a le Palais de Chaillot, qu'on a un certain nombre de monuments qui sont restés de cette époque-là, pour que le monde entier vienne chez nous et se disent, bon voilà, c'est ça la ville lumière, première ville à éclairage magnifique qui fait que tout le monde est fasciné, donc la ville lumière à la fois intellectuelle et matérielle. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de politique publique de ce niveau-là. J'ai le souvenir, on sera tous d'accord là-dessus, les années 60, les villes noires, et comment à un moment donné, la loi Malraux oblige à faire les ravalements, et tout d'un coup, on retrouve un autre Paris, on retrouve une rue de Rivoli lumineuse, alors qu'on avait des monuments noirs, on passait là-dedans en bagnole. Bon, pardon, en voiture. Donc, mais donc aujourd'hui, en fait, on n'a pas l'équivalent. Même le honni, le très honni, le très détesté François Mitterrand, a fait quand même, à l'échelle de Paris, une petite tentative de politique publique avec la pyramide du Louvre, avec les colonnes de Buren, ce qui contribuait aussi à modifier le monument Louvre en évacuant le ministère des Finances et en modifiant la structure interne du musée. Donc, c'était des investissements malgré tout massifs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne les vois pas. Alors, est-ce que c'est qu'une question économique ? Là, je serais heureux d'avoir le sentiment d'Henri et de Madame Miller, parce que c'est une vraie question pour moi. Est-ce qu'on a encore les moyens, au fond, de cette politique ?
Alors, Anne Miller, qui est bien placée, justement, pour répondre.
Moi, je vous trouve quand même un peu sévère. On va quand même accueillir la Coupe du monde du rugby, on va accueillir les Jeux olympiques. Enfin, la France est
dans
encore...
l'existant.
Oui, mais enfin, il faut raisonner, vous parlez de Louis XIV, il faut raisonner sur des périodes de 50 ans. Justement, le Louvre, pour moi, justement, c'est le temps long, l'investissement.
Mais pour vous, c'est la même chose qu'un grand musée.
Non,
C'est le même apport.
Ce que je veux dire, dans l'attractivité. Si je me mets dans l'attractivité de la France en général... la philharmonie qui a été faite récemment et qui est somptueuse et on a enfin une philharmonie de niveau international. Donc moi je vous trouve peut-être parce que je suis arrivée depuis 3 mois et que je suis enchantée par Chantilly, émerveillée, parce que j'ai vraiment trouvé le condensé de ce que la France a à offrir à Chantilly. C'est extraordinaire, vous avez tout, vous avez Donc, vous avez les collections de peinture, la deuxième après le Louvre, les grands maîtres, vous avez les appartements, vous avez le parc avec, avec l'histoire des jardins dans le parc.
Mais est-ce que vous allez monétiser Chantilly comme par exemple que Jean-Jacques Ayagon puis ensuite Catherine Pégard ont monétisé Versailles? C'est-à-dire que voilà, on a des mécènes, c'est bien, mais aussi on fait venir des entreprises, on organise des défilés de mode, on fait venir etc., etc.
Oui, enfin.
Est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui? Fabrice d'Almeida disait effectivement Louis XIV faisait plein de choses. Mais à l'époque, il y avait de l'argent, les caisses étaient pleines dans le trésor.
Et il le fait pour faire venir l'argent dans les caisses.
Je crois que c'est très important, en effet, de profiter de toutes les pistes. Ce qu'il faut, c'est garder un équilibre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce qu'on appelle, nous, dans notre langage, les privatisations d'espace se fasse au détriment du public. Mais justement, on n'est pas ouvert le mardi, donc on fait pas mal de privatisations le mardi. On n'est pas ouvert le soir, on fait des privatisations le soir. Et on veille, et il n'y a rien de mal à ça, au contraire. On veille simplement d'abord à ce que nos contrats sont très stricts. S'il y a le moindre dégât, il faut que ce soit remis en état. Et d'autre part, on veille à ce que ça ne dérange pas les visites. Mais c'est très important aussi. C'est de la saine gestion pour moi.
On a beaucoup parlé des monuments, de tout ce qui nous accompagne dans l'histoire de France. Mais enfin, parlons quand même des gens, des hommes, des femmes de ce pays. Je ne vais pas vous resservir comme un buffet froid, la fuite des cerveaux, mais bon, ça existe quand même. On a une école avec un grand E, on a Polytechnique, on a les mines, les ponts, on a, comment dirais-je, des grandes écoles d'ingénieurs, on a une école aussi de médecine qui est reconnue, même s'il y a l'affaire du numerus clausus qui remet plein de choses en cause. Mais voilà, on a des étudiants qui font là, qui font une start-up et qui, au bout de 5 ans, 6 ans, c'est un modèle qui a tendance à se perpétuer. C'est effectivement, on se fait racheter par une boîte américaine, par une boîte norvégienne, par une boîte suisse, par une boîte asiatique, par une boîte indienne, et on s'en va. Et voilà, et c'est ce qu'on appelle communément la fuite des cerveaux. Parce que, et je vous interroge, qu'est-ce qui fait que voilà, la France, c'est quoi? C'est une histoire, c'est un drapeau, c'est une nation, c'est une idée de la citoyenneté. Non, on s'en va, on va vivre dans un autre pays parce qu'il est plus attractif.
Et c'est une langue.
Voilà.
Et
qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, docteur d'Almeida?
Ce que j'ai regardé, qui m'intéresse toujours, c'est la question de l'attractivité étudiante. Et c'est vrai qu'elle est à peu près maintenue, c'est-à-dire qu'elle est en léger déclin, mais elle est à peu près maintenue. On a quand même encore toujours à peu près 360 000 étudiants qui viennent étudier en France. Mais c'est vrai qu'en termes d'attractivité à l'échelle internationale, quand on regarde les grands classements, quand on regarde où vont les étudiants des pays les plus riches, ce n'est pas forcément chez nous et c'est, je dirais même, pas du tout chez nous. Oui, mais on a, pour le coup, on a maintenant un vrai problème linguistique. Il faut quand même le dire, par rapport à beaucoup de pays, on est resté très attaché à la langue française. On fait beaucoup moins d'enseignement en anglais.
Oui, mais on a raison d'une certaine manière d'être attaché.
Peut-être pas. Les Hollandais, les Hollandais ont fait une stratégie très différente. Ils sont très, très largement passés à l'anglais.
Vous parlez le néerlandais ou pas?
Non, mais eux parlent anglais. Oui. Et leur université parle anglais. L'université de Leyde, l'université de Rotterdam, l'université de Groningen,
Amsterdam.
Voilà, toutes ces universités-là, elles offrent une palette d'enseignement international. Résultat, elles ont même une attractivité pour les étudiants français. Donc là, il y a un vrai
problème.
Pour le coup, c'est là où on a besoin d'avoir une politique.
Henri Guénaud.
Oui, mais moi, je vois pas à quoi ça sert d'avoir une politique d'attractivité si c'est pour offrir en France un double dégradé de ce que font les autres. Enfin, je veux dire, c'est pas si c'est pour faire une seconde Amérique en moins bien, c'est pas la peine. Donc, les gens qui viennent en France, ils viennent en France pour avoir des cours en français, pour apprendre en français, pour étudier en français. Qu'on ait par ailleurs des cours de langue, c'est très bien. Qu'il y ait quelques cours quand on invite un professeur étranger qui parle anglais ou chinois, c'est très bien.
Mais sur la fuite des cerveaux.
Voilà, mais ça. C'est très intéressant parce qu'on dit, l'attractivité, elle est maintenue, c'est vrai en nombre. Alors ça, essentiellement d'ailleurs pour des élèves francophones.
Beaucoup francophones,
parce
beaucoup africains.
Mais souvent c'est parce qu'ils ne peuvent pas aller ailleurs, faut être clair. Il y en a qui viennent parce qu'ils veulent étudier dans la langue, et puis d'autres parce que c'est plus commode, voilà, c'est plus facile. Mais ce qui se passe, c'est que les gens font... Il y a encore de très très bons établissements scolaires en France, enfin, d'enseignement supérieur. Il y a des grandes écoles qu'on essaye de détruire d'ailleurs, et puis il y a de très belles facultés.
Là, vous avez parlé de l'ENA, là.
Non, mais l'ENA, c'est...
C'est fini.
C'est un cas particulier, une fois c'est fini. On est tracé d'une autre façon, j'en sais rien, mais la Polytechnique, l'école normale supérieure. Vous savez quelle est l'école au monde qui a fabriqué le plus de prix Nobel ?
Physique, chimie.
C'est l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, depuis que le prix Nobel existe, tout prix Nobel confondu. Et Polytechnique doit être sixième à peu près. Enfin, une étude américaine avait montré ça. Donc, faut pas abîmer tout ça sous prétexte de vouloir absolument ressembler au modèle universel de faculté d'économie. Bon, ça, c'est la première chose. Mais beaucoup de gens font des études, beaucoup de Français hein, font des études très brillantes dans des universités scientifiques comme Jussieu ou à Polytechnique ou à l'école normale supérieure. Et puis quand ils ont fini leurs études, éventuellement ils commencent font leur doctorat. Enfin, et puis ils s'en vont. Ils s'en vont parce qu'on n'a pas on ne leur donne pas ni les moyens de vivre correctement, ni les moyens de travailler correctement.
Ils ne sont pas assez payés.
On a un petit marché voilà. Académique.
Ils n'ont pas les moyens de faire de la recherche. Ils n'ont pas les moyens qu'on leur donne aux États-Unis dans les grandes universités américaines, dans les grands laboratoires américains, ou même dans certains pays européens comme l'Allemagne. Voilà, il y a des gens qui s'en vont parce qu'ils ne trouvent plus les moyens de continuer leur recherche en France au niveau qu'on leur offre ailleurs.
Anne Miller.
Moi, je voulais quand même vous apporter l'éclairage que j'avais vu à la French Tech. Ce qui m'a quand même marqué quand j'étais là-bas, c'est de voir que les licornes françaises s'étaient développées et que contrairement à ce qui s'était passé à la fin des années 2017-2018, où là, vraiment, dès qu'une société grossissait un petit peu, elle se faisait racheter ou... son fondateur allait s'établir à l'étranger. Là, vraiment, les sièges sociaux restent en France. Et avec la French Tech, justement, on a réussi à créer une vraie communauté d'entrepreneurs qui sont fiers d'être français, qui sont fiers d'être un peu spéciaux. S'ils partent aux États-Unis, ils ne sont plus vraiment spéciaux, qui sont reconnus en tant que French. Parfois même des fondateurs à titre personnel déménagent, mais ils ne font pas déménager leur siège social. C'est vraiment très intéressant de voir ça. Eh bien, écoutez, je pense qu'ils se sont sentis... ils se sont sentis soutenus, justement, par les politiques publiques. Ils se sont sentis promus. Ils se sont sentis distingués. Et même ceux qui vont à l'étranger, j'ai remarqué ça aussi quand j'étais à Boston, les Français qui s'étaient établis à Boston étaient très fiers de se réunir et de se présenter auprès des Américains comme membres de la French Tech. Donc je pense qu'on peut quand même nuancer un petit peu cette fuite. Parce que, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que les sièges sociaux arrêtent de se déplacer.
Il y a la question de la taxation qui arrive assez vite derrière.
Justement, il y a eu énormément de progrès de ce point de vue-là. C'est pour ça.
En termes de, si on en croit les statistiques de l'INSEE, il me semble, ça c'est la grande spécialité d'Origeno, mais il me semble qu'on a eu on est le pays le plus attractif d'Europe en termes d'installation d'entreprises étrangères.
Non, alors quoi, ça, c'était...
Origeno.
Il me semble qu'en 2021, c'était 1221, qu'Origeno ne sera pas d'accord avec les chiffres.
Tous les gouvernements depuis toujours... ils trichent pas. C'est
font du marketing.
Pas grand chose parce que la question aussi est celle des montants. Hein, vous pouvez avoir beaucoup d'entreprises en nombre, un projet d'investissement avec des montants relativement faibles et des créations d'emplois relativement faibles. Donc on est devant en nombre, devant l'Allemagne, devant le Royaume-Uni, etc. Mais en fait, en montant, ça n'est pas le cas. Et d'autre part, nous investissons en investissement direct beaucoup plus à l'étranger, c'est-à-dire que l'épargne française, elle s'en va s'investir pour beaucoup à l'étranger et pour beaucoup moins l'épargne, les investissements étrangers viennent s'installer en France. Donc, mais c'est très compliqué de dénouer ce fil. Mais je ne crois pas qu'on puisse être aussi, avoir une telle idée de notre, une telle estime de nos
l'optimiste
nos
résultats. Henri Guénaud. Bah voilà. L'optimiste Henri Guénaud, on aura compris. Non,
écoutez, il vaut mieux rester sur une note d'optimisme. Merci à Henri Guénaud, De Gaulle, le nom de tout ce qui nous manque chez les éditions du Rocher. Merci à Fabrice Delmena, l'histoire mondiale des riches, à paraître chez Plon le 13 octobre prochain. Et merci à Anne Miller. Il faut aller voir le domaine de Chantilly et également l'exposition d'Ureur.
L'exposition
en ce moment,
d'Ureur qui est exceptionnelle. Absolument. C'est vraiment une exposition labellisée d'intérêt national et elle devrait l'être d'intérêt international.
Merci. Merci beaucoup. À vous trois. Lionel Rousseau, c'est à vous.
Match d'intérêt national ce soir également sur l'antenne d'Europe 1, mon cher Pierre, avec un match amical de préparation à l'Euro pour l'équipe de France de football. L'équipe de France féminine qui va jouer contre le Cameroun. C'est une revue d'effectifs. On suivra ça en intégralité avec un coup d'envoi à 21h10. On en parlera également dans nos débats avec nos experts et à venir également interview exclusive du président de la Fédération française de foot, Noël Le Graët, qui parle notamment des ambitions pour l'équipe de France féminine. À tout de suite.
À tout de suite, bonne soirée.